Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Je t'emmène en voyage. Je m'appelle Sarah et aujourd'hui, je t'emmène en tour du monde avec Laura Jacques. Salut, Laura!
Salut Sarah!
Tu vas bien?
Ouais, super, et toi?
Bah écoute, ça va super bien, je suis bien contente que tu aies accepté de faire ce petit podcast avec moi. Écoute, aujourd'hui on va parler un petit peu de tes voyages, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on fasse une petite présentation, savoir qui tu es, d'où tu viens, ta formation, ton âge, ton signe astro. Non, je déconne. Je t'en prie, vas-y.
Alors, j'ai 35 ans, je viens à la base de région lyonnaise et j'ai fait d'abord une formation en design, puis en école de commerce en marketing. Et c'est après avoir travaillé quelques années en marketing que j'ai éprouvé le besoin de tout quitter et de partir voyager pour changer de vie.
Effectivement, tu as décidé de tout quitter, de changer de vie. Je peux même dire qu'en fait, on a commencé à voyager ensemble et que, en fait, si aujourd'hui je fais ce petit podcast, c'est pour dire un peu en fait que tu m'as lâché. Non, je déconne. Non, mais nous, on est partis en Amérique du Sud et en fait, tu as décidé de décourter notre voyage pour en faire un autre avec ton mec. Et du coup, je voulais savoir d'où est-ce qu'elle est venue cette idée en fait.
Alors, déjà, mon mec, je l'ai rencontré entre-temps, hein, c'était pas contre toi. Le voyage qu'on a fait ensemble était complètement extraordinaire, ça c'est sûr. Mais après, il y avait une date retour qui était prévue. Mmh. Et du coup, j'avais eu l'expérience un petit peu du voyage, mais je ne l'ai pas vécu pleinement. Du fait de cette date retour, j'étais un peu en mode, touriste, il faut voir ça, il faut vite avancer pour rien louper, aller dans tel pays, absolument. Tu vois de quoi je parle.
Je vois très bien de quoi tu parles.
Et c'était très enrichissant et des super moments de découverte, autant de la culture de pays que de moi-même, que des autres, etc. Mais je n'avais pas vraiment lâché prise et ça ne m'a pas apporté, on va dire, ce dont j'avais besoin en termes de recherche de moi-même. Okay. Et du coup, mon deuxième voyage, donc qui a duré beaucoup plus longtemps, 2 ans, le premier c'était 3 mois. Mm-hmm. Donc ce deuxième voyage, j'avais pas de date retour. Et alors là, c'est vraiment, ça change tout, trouve, dans le sens où il n'y a pas de pression, il y a vraiment un lâcher prise qui s'opère, on prend le temps de profiter d'un endroit ou de personnes qu'on rencontre. D'explorer des sujets vraiment qui nous intéressent.
Mais votre but quand vous êtes parti, parce que c'était clairement c'était un espèce de tour du monde que vous aviez programmé puisque vous n'aviez pas pris de date de retour, quel était le but à la base? De quoi vous êtes parti? Genre, on veut voyager tous les deux ou est-ce qu'on veut faire un truc en particulier ou aller quelque part?
Alors, tous les deux, en fait, on a eu le même besoin et la même démarche au cours du voyage. En fait, on était dans nos vies en France un peu conventionnelles, on va dire. Un boulot dans un secteur qui ne nous parlait pas forcément. Moi, le marketing, plus les années passées, moins ça me correspondait par rapport à l'impact que ça avait sur l'environnement, notamment, et aux valeurs que ça véhiculait. Et puis, j'avais aussi besoin de plus de nature, de plus de grands espaces. Enfin, voilà, en ville, j'étais trop coupée de la nature. Et donc,
Votre but.
J'avais besoin vraiment d'un changement de vie. Et c'est ce que je suis allée chercher en voyage, mais je savais ce que je ne voulais plus, mais absolument pas ce que je voulais.
c'est voilà. Évidemment.
Ça m'a pris du temps, mais on n'est pas parti dans l'idée de faire un tour du monde ou quoi. À la base, on est parti 1 an en Nouvelle-Zélande, et c'est au cours de ce voyage en Nouvelle-Zélande que tout s'est enchaîné. Donc, On a démarré par 9 mois en van.
Ok. Et, quelle expérience ?
Oui, alors c'est l'expérience en van, c'est incroyable. C'est vraiment la liberté à l'état pur. Tous les jours, on se réveille avec un nouveau jardin. On est libre d'aller où on veut. Et puis, pour le coup, de vraiment prendre le temps. On n'a pas aucune échéance. Donc, c'était une expérience vraiment enrichissante. Également, le fait de passer d'un appartement à un van, ça apprend à vivre avec beaucoup moins d'objets.
Oui, bien sûr. Du coup, vous aviez un itinéraire quand même ?
On avait une idée globale de l'itinéraire. D'abord l'île du Sud, puis l'île du Nord, et puis certains endroits où on avait vraiment envie d'aller, notamment des grandes randonnées qu'on voulait faire, des treks de plusieurs jours. On se laissait quand même un petit peu porter au gré des rencontres. Mais ça nous suffisait pas. Le van, c'était encore trop de confort et
d'accord, et plus de difficultés. Allons-y.
Du coup, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin dans la recherche de soi et
de la mise à l'épreuve.
On a vendu le van et on a continué en stop et en camping sauvage.
Énorme.
Donc là, pendant 6 mois, c'était, on a jamais payé un hôtel ou une auberge ou quoi que ce soit. On était vraiment sur la route.
Parlons-en.
Pardon ?
Le budget, parlons-en, parce que tu me dis que tu n'as jamais payé d'hôtel ni de quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que dans le budget, ce n'était peut-être pas compté à la base. Vous étiez parti peut-être avec un budget qui le prenait en compte et puis qui, au final, n'a pas servi. Qu'est-ce que...
Alors, déjà, le budget, nous, c'était quand même un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, voilà, on a tant d'argent. On a acheté un van qui était pas trop cher, mais qui était quand même pas mal, quoi. Et surtout, on savait qu'on allait pouvoir le revendre, quoi. On a fait quelques améliorations. Et en le revendant, on n'a pas perdu d'argent. Donc ça, c'était quand même une volonté qu'on avait.
Ouais.
Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, donc on est parti en Nouvelle-Zélande un peu plus d'un an et on a fait le choix de travailler pendant 3 mois dans les kiwis originales pour la Nouvelle-Zélande. Okay. Et pendant 3 mois où là, on a vraiment bossé à fond. On était payé au rendement et on se faisait des journées de je ne sais combien d'heures, 12 heures et 6 jours sur 7. Et en fait, là, on a pu quand même gagner pas mal d'argent. Et au final, entre ce boulot de 3 mois et la revente du van, notre séjour en Nouvelle-Zélande nous a coûté 0.
Trop bien. Trop bien. Ça, c'est ouf de partir en voyage et de rien payer, entre guillemets. Enfin, travailler 3 mois pour au final pouvoir repartir avec de l'argent, c'est juste top. Donc, j'imagine que ça a relancé un petit peu votre envie de voyager en vous disant, du coup, on peut encore continuer de voyager et partir ailleurs. C'est ça qui vous a permis et qui vous a donné l'envie et l'idée de continuer ?
Alors, au cours de notre voyage en Nouvelle-Zélande, on a passé pas mal de temps à nous renseigner sur un sujet qui nous touchait déjà un petit peu avant et qui nous a un peu sauté au visage, on va dire, pendant le voyage. Ouais. C'est l'état de la planète notamment notre empreinte carbone en prenant un avion qui traverse la Terre. Et là, on s'est dit, mais mon Dieu, on ne peut pas, en fait, reprendre un avion pour rentrer, c'est juste inconcevable pour nous. Et donc, on s'est, en parallèle de ça, on a rencontré un pirate, en fait, un néo-zélandais qui vivait sur son voilier, un peu coupé de tout, qui n'avait même pas de compte en banque, qui
un vrai pirate.
Très peu, ouais. Qui buvait de la bière du matin au soir, d'où le pirate.
Il avait un crochet aussi.
Pardon,
un crochet. Est-ce qu'il avait un crochet ?
Il n'avait pas le crochet, mais ça lui irait bien. Une grande barbe rousse et tout. Enfin, il avait vraiment.
Ah ouais, donc barbe rousse en fait, pas capitaine
crochet. Ouais,
c'est ça.
et en fait, ce mec-là nous a pas mal inspiré déjà dans son mode de vie très alternatif et également. Donc, on a fait de la voile avec lui. En fait, il nous a appris les bases de la voile.
Génial.
Et en entendant un peu notre, volonté de limiter notre impact carbone, il nous a dit mais rentrer en bateau stop, enfin, c'est bon.
Okay, à d'autres dauphins, Laura, t'aurais dû rentrer à dos de dauphin.
Ouais, bah, alors attends, déjà sur un bateau, c'était pas mal pour moi, parce qu'à la base, j'aime pas l'eau, mettre sous l'eau, c'est déjà pas du tout mon truc, donc là, faire une traversée de plus d'une semaine sur un voilier, c'était quand même quelque chose.
Mais, c'était un défi, ouais.
Ouais, un énorme défi, le plus grand défi du voyage, je pense. Mais voilà, je savais pourquoi je le faisais, j'étais motivée, et puis il y a quand même ce petit goût d'aventure qui te dit, bon, allez, on y va, quoi, on est là pour se dépasser.
Bien sûr.
Et du coup, voilà, on a tout mis en œuvre pour trouver un bateau stop qui nous amènerait en Australie, pour déjà démarrer le retour vers la France. Et en fait, on n'a pas trouvé. C'était pas la bonne saison, parce que quand on fait du bateau stop, il faut vraiment prendre en compte les saisons, parce que les vents changent en fonction des mois de l'année.
Évidemment. C'est quelque chose auquel moi j'aurais jamais pensé, mais oui, effectivement, s'il n'y a pas de vent, en plus, tu peux pas trop.
Ouais, c'est trop ça. Naviguer, c'est ça. C'est grâce à notre ami pirate qui nous a donné pas mal de conseils. Et donc finalement, on a trouvé un bateau qui nous a emmené en Nouvelle-Calédonie. On n'avait absolument pas prévu d'aller en Nouvelle-Calédonie, mais bon, hein, c'est pas trop mal, donc on y est allé. Et du coup, on a fait une traversée là de 9 jours.
Ok. On était long, 4 jours sans voir la terre.
Notre capitaine qui avait dans les 70 ans, quoi, qui faisait un tour du monde tout seul.
Ah ouais.
Ouais, c'était. Il était
ça fait flipper, non ? Moi, ça me fait déjà flipper.
Il avait l'air de maîtriser son sujet, donc bon, pourquoi pas. Et puis, on avait également un autre Français qui, lui, était dans une école de voile, donc il connaissait bien le sujet aussi, donc c'était plutôt rassurant.
Ouais.
Et donc voilà, on fait cette traversée qui a duré 9 jours. Alors, il faut savoir que sur ces 9 jours, on a eu 4 jours de tempête. Mmh. On était un petit peu à la fin de la saison cyclonique, mais c'était le seul bateau qui partait, notre visa se terminait. Donc en fait, on n'avait pas le choix. Donc
galère.
On a pris. Mais voilà, encore sur les dernières semaines de la saison des cyclones. Et bon, j'étais pas très rassurée, mais voilà, on l'a fait. Alors, c'était pendant 4 jours, le bateau qui était penché à 45 degrés, qui était jamais horizontal. Donc, t'imagines, oh là là, cuisiner, pour dormir, on devait se tenir au matelas, sinon on roulait par terre. les vagues qui tapaient sur la coque, mais ça faisait des bruits énormes. Enfin, c'était...
Mais vous avez fait des nuits blanches
Ouais.
Pour guider le bateau, tu vois, enfin pour naviguer.
Ouais, alors déjà, quand on navigue, il faut faire des quarts de nuit, en fait, on se relaie, c'est pour ça que c'est bien aussi d'être plusieurs sur le bateau. Donc chacun, soit tout seul, soit en binôme, on va sur le pont, en fait, et puis on vérifie le cap, on vérifie les vents, s'il y a des changements de vent, on ajuste les voiles, et puis on vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'autres bateaux, parce que même si... En plein milieu de la mer, en fait, on croise vraiment personne. Mais bon, ce serait bête qu'il y ait un bateau quand même.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, on a quand même une responsabilité. Et sinon, oui, non, on n'a pas beaucoup dormi pendant cette période-là. Mais bon, voilà. Après, c'est l'adrénaline, quoi, qui fait qu'on tient.
Et toi, t'as conduit pendant la tempête ?
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Oh moi je crois que j'aurais fait pipi culotte en direct, tu m'appelles pas, surtout je fais semblant de dormir pendant des heures tant que je suis bien sur le côté contre le mur. Ouais. Ah non, il y avait quelqu'un avec toi ou t'étais seule?
Alors sur cette traversée on le faisait tout le temps en binôme. Ouais.
Ok, c'est rassurant déjà.
Donc je le faisais avec mon homme et on se relayait quoi. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant quoi, les vagues qui inondent le pont, enfin C'était très intense et quand je suis arrivée sur la terre ferme en Nouvelle-Calédonie, j'avoue, j'ai fait un câlin à un arbre. J'étais genre, je suis en vie, tout va bien. et voilà, bon, un truc que je trouve vraiment, vraiment chouette dans cette aventure, c'est que c'est en Nouvelle-Calédonie qu'on a trouvé un peu notre, on va dire, notre projet de vie. Et c'est un endroit où on n'avait absolument pas prévu d'aller. Et le fait de choisir de rentrer sans avion nous a amené à faire du bateau stop, qui nous en a amené en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc, quand je parlais de tout à l'heure de voyage et de lâcher prise, c'est exactement ça. C'est quand on accepte, en fait, ce qui nous arrive pendant le voyage, on fonce sans se poser de questions. Bon, il faut quand même un petit peu réfléchir. Voilà,
pas évidemment.
Quoi, mais voilà, on accepte ce qui nous arrive. On se laisse un peu porter par les rencontres et par le feeling, quoi. Et ben, à chaque fois, nous, c'est dans ces cas-là que des choses complètement incroyables et magiques et inattendu, nous sont arrivés, et c'est ça qui nous a fait le plus avancer sur nous-mêmes, et puis qui a créé les émotions les plus fortes, quoi. Donc,
Et c'est certainement ça aussi qui a guidé un peu vos itinéraires, ou vous... parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de lâcher prise et d'aller de l'avant, est-ce que du coup vous vous êtes dit « bon bah on verra bien » ou alors vous vous êtes dit « non, on veut quand même aller par-ci ou par-là, et puis on verra bien qui nous y emmène et comment on ira et quand on ira ». De plus avoir pas la notion du temps, mais d'être guidé par le temps et d'être conditionné, en fait. Là, vous n'étiez plus du tout conditionné, c'est plus les rencontres qui faisaient que, ben, boum, vous partiez à un endroit.
Alors, sur le voyage en général, on avait quand même la direction de la France.
Ok.
Et au niveau de la temporalité, moi, j'avais quand même envie de pas rester trop, trop longtemps sur la route. Donc, au début, je partais pour un an, et puis finalement, un an et demi, puis finalement, 2 ans. Et voilà, moi, j'avais quand même un peu cette idée de pas rester trop loin de la France trop longtemps. Peut-être la peur de trop louper de moments avec mes proches, voilà, l'envie aussi... De construire quelque chose, quoi, de vraiment construire un projet en France. Donc, on avançait quand même en direction de la France, mais c'était beaucoup plus détente que quand on était toutes les deux en Amérique du Sud, quoi.
Évidemment.
On pouvait rester plusieurs semaines à un endroit et on se laissait quand même pas mal porter par les rencontres, c'est clair.
Oui. Nous, clairement.
Ouais.
Clairement. Voilà, c'est vrai qu'en plus, bon, tu voyages avec ton mec. J'imagine que quand tu pars dans un voyage comme ça, bon, je sais que nous, on avait prévu plein de choses dans notre backpack et que moi, j'en ai perdu la moitié. Donc, clairement, tout ce que j'avais prévu, je l'ai quasiment pas utilisé. Toi, qui es un petit peu plus ordonnée, je pense que tu as quasiment rien perdu. Mais en parlant de ça, il y avait quoi dans vos sacs, en fait? Si vous saviez pas vraiment où vous alliez, qu'est-ce que vous avez quand même emmené dans votre sac?
Alors, déjà, on voulait avoir des sacs assez léger, pas comme justement quand on était en Amérique du Sud où mon sac faisait 25 kilos. on pouvait marcher 1 kilomètre, on était morte. Non, là, c'était quand même beaucoup moins vu qu'on voyageait aussi en stop. Et ça nous arrivait de traverser une ville à pied pendant une demi-journée. Donc, il fallait qu'on soit assez libre. Donc, au niveau des vêtements, bah, c'était vraiment simple, quoi. 2-3 t-shirts, 2-3 sous-vêtements. Un short, un pantalon, enfin, et puis on essayait aussi d'avoir des choses qui étaient multifonctions. Un pull qui va servir aussi d'oreiller ou voilà, des choses comme ça.
J'ai envie de dire n'importe quoi, mais je vais me retenir, vas-y, continue.
évidemment, tente, matelas et sac de couchage. On avait un tout petit réchaud. Alors un petit truc qui est super pratique quand on voyage en stop et qu'on sait pas du tout où on sera le soir, si on pourra manger quelque chose ou pas, c'est de prendre du couscous, parce que le couscous, ça pèse pas lourd du tout, tu mets juste de l'eau, même de l'eau froide, et hop, tu peux manger. Bon, c'est un peu sec, hein.
Ah, bon conseil, ça.
Mais...
ça aurait été bien, nous, si on l'avait eu sans voyage, effectivement. Ça aurait été pas mal.
Ça nous aurait bien dépanné, c'est clair. Mais ouais, du coup, on a trouvé ce petit truc quand on faisait des treks de plusieurs jours, notamment. C'est assez pratique, ça pèse rien. Alors, il ne faut pas que le sachet explose dans le sac. Hein. Ça nous est arrivé 2 fois, mais tu vois, nous aussi, on a eu des galères. Hein.
Du coup, quand le sachet explose, en fait, tu manges rien, c'est ça?
Ah bah si, mais en fait, vu que tu n'as que ça à manger, tu tries toutes les poussières et tu vois, non mais... C'est une mission, quoi.
Ah là là, énorme. Ça, c'est la preuve que le voyage te fait grandir. C'est là où tu te dis, de toute façon, si j'ai rien à manger, je vais quand même manger ce qui me reste, quoi.
Voilà, et se contenter de peu et de ce qu'on a et réduire son niveau de confort, en fait. Et finalement, on se rend compte qu'on peut vivre très bien avec très, très peu. Et ça, ça a été un des plus gros apprentissages de ce voyage. C'est la sobriété, quoi, dans les besoins matériels. Et voilà. Et sinon, dans notre backpack aussi, ce qu'on avait, on avait un truc, ça c'était vraiment pratique, c'était une gourde avec une paille filtrante.
Ah yes.
Et ça, alors quand on est en Nouvelle-Zélande par exemple, ou en Australie, dans des pays, on va dire, assez développés, quoi, comme la France.
Ouais, ouais, bien sûr.
Là, tu peux boire à peu près toute l'eau. Mais ensuite, notre voyage nous a amenés en Asie du Sud-Est et en Inde, au Bangladesh, en Birmanie, enfin des pays où tu n'as pas envie de boire n'importe quelle eau.
Non, clairement, si tu veux continuer à voyager, vaut mieux pas.
Voilà, et donc cette gourde-là, vraiment, c'est hyper pratique, quoi.
Donc, ça, deuxième conseil, acheter du couscous, ouais, et une gourde avec une paille filtrante.
Voilà.
Ah, ça, c'est cool.
Voilà, dans les choses un peu importantes du sac. Et puis bon, bah, un petit appareil photo quand même pour amener des souvenirs, ça me tenait à cœur.
Évidemment. Ok, et du coup, donc on a parlé du backpack, on a parlé un petit peu, le budget, c'est peut-être un peu indiscret comme question, mais si tu as envie d'y répondre, je pense que ça peut être vachement intéressant. En grosso modo, hein, on n'est pas obligé d'aller dans le centime près.
Alors, le van, on l'avait payé, je crois, 5000 euros, il me semble.
Ouais.
Et après, franchement, en fait, c'est pas que je veux pas de répondre, mais on n'avait pas de budget global. Alors après, nous, on dépensait vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on allait peut-être une fois par mois au restaurant, peut-être deux fois par mois dans un pub, quoi. Et après, sinon, on n'avait aucune dépense, quoi. Toutes les visites qu'on faisait, c'était que des trucs gratuits. On a fait aussi des woofing, donc où t'es nourri, logé, ouais, en échange de travail. Donc,
vous en avez fait beaucoup du woofing pendant le voyage ?
Si j'ai fait du woofing pendant le voyage ?
Beaucoup.
Est-ce que tu as beaucoup fait du woofing ? Pas tant que ça. J'ai dû faire en tout peut-être 2 mois de woofing sur 2 ans de voyage.
Ah oui,
c'est cool. À chaque fois, c'était des woofing choisis vraiment pour... Enfin, dans des sujets qui nous touchaient, donc des fermes en permaculture, des maisons autonomes, des choses comme ça. Et dans cette idée de trouver notre projet, quoi. Et bon, ça a pris le temps de le trouver. Mais on était plus sur la route. Mais après, voilà, c'est un hasard aussi, dans le sens où voilà, on faisait des rencontres, on avançait.
Ce que je te propose, c'est que tu me refasses un petit peu l'itinéraire entier pendant tes 2 années de voyage avec Octave, donc ton mec. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le sujet, c'était plus ton ressenti vis-à-vis du voyage. Donc, de me donner un peu l'itinéraire global que vous avez effectué, et de cet itinéraire, quel a été le voyage, enfin le stop le plus mémorable pour toi, celui qui a vraiment transcendé tes 2 années où tu t'es dit waouh.
Alors, l'itinéraire du coup, après la Nouvelle-Calédonie, on est allé en Australie. Donc là, c'était dans l'idée de travailler, parce que c'est très bien payé là-bas. Donc en fait, on a, même histoire qu'en Nouvelle-Zélande, on a travaillé pendant 2 mois et demi. Comme des malades, on occupait 2 boulots, on faisait des semaines à 80-90 heures. Mais du coup, on est revenu avec plus d'argent que quand on est parti, ce qui nous a permis ensuite d'acheter un bien en France. Donc, c'était bien, bien géré. Puis après, pendant tout le reste du voyage, on n'a plus bossé. Donc, après l'Australie, on a refait du coup du bateau stop pour aller en Indonésie. Donc là, ça a duré 3 semaines sur la mer. Pas de tempête, condition idéale. Là, c'était complètement dingue. Des couchers de soleil avec les dauphins. C'est très cliché, hein, mais parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, quoi. Une nuit où il y avait pas de lune, on voyait les étoiles. Et donc, on était au milieu de nulle part et il y avait du plancton phosphorescent autour du bateau. Donc, en fait, on avait l'impression de voyager dans la Voie lactée, quoi. Enfin, il y avait des étoiles.
Ah là là.
Juste le bruit des vagues et tout. Enfin,
ça devait être fou furieux, ça, comme expérience.
Pour faire du bateau stop, hein, franchement. Il faut surpasser sa peur et c'est vraiment des émotions inoubliables.
Donc, tu avais tout le plancton qui était autour de toi qui scintillait, les clapotis des vagues, l'odeur du sel et les ploufs d'un coup des dauphins, c'est ça?
Alors, les dauphins, c'était pas cette fois-ci. Là, ouais, le plancton, t'avais. En fait, tu distinguais pas la mer du ciel puisqu'il n'y avait pas d'étoiles, tout était noir avec juste les étoiles dans le ciel et les planctons en bas. Le bruit des vagues, le bateau qui fend les vagues.
La Voie lactée à 360, quoi.
Ah ouais.
La oh là là. Tu donnes trop envie de repartir, Laura.
Enfin, voilà, une traversée, du coup, de 3 semaines juste dingue. Et ensuite, donc là, après, on est passé que par voie terrestre, pardon.
OK.
Donc, en Indonésie... un petit passage éclair à Singapour, donc la ville plus. Donc là, on est resté 2 jours. Hein, ça nous.
Ah ouais, radical.
C'est beaucoup trop. Et ensuite, Thaïlande, Birmanie, Bangladesh et Inde. Donc, pendant tous ces pays, dès que c'était possible de dormir en camping sauvage, on le faisait. Donc, sur la plage. On se planquait sinon dans les parcs, dans les villes ou quoi. Mais il y a certains pays où c'était vraiment, vraiment compliqué. Par exemple, en Birmanie, là, c'est interdit, en fait. Enfin, le gouvernement, c'est un peu compliqué, la situation politique en Birmanie. Et c'est ouvert au tourisme depuis assez peu. Et donc là, en fait, tu es obligé de dormir dans des hôtels agréés par le gouvernement. Donc là, le camping sauvage, il faut juste oublier, en fait, c'est trop dangereux. Ouais. Mais on en a quand même fait. donc, tu me demandais, par exemple, mon expérience en stop la plus ouf, c'était en Birmanie.
Okay.
Donc, pour rejoindre une ville par laquelle on voulait passer, soit on prenait en gros la route nationale, quoi, en faisant du stop sur cette route-là, soit on allait se perdre un petit peu dans la campagne en faisant un détour. Et on savait que c'était vraiment des petits villages reculés. Et on s'est dit, bon, bah, on va le tenter par là, quoi. Donc, on y va. Et en fait, une fois perdu au milieu de nulle part, dans les montagnes, dans les villages, on tombe sur quelqu'un qui parlait un petit peu anglais, parce que là-bas, il parlait vraiment pas anglais. Enfin, on se comprenait à peine par des gestes, etc. Donc là, c'était quelqu'un qui nous a pris et qui, en fait, voulait pas qu'on dorme ailleurs que dans une église. Enfin, c'était dans un... Enfin, c'était un religieux, quoi. Il voulait pas qu'on dorme ailleurs que dans une église parce qu'il nous a informé qu'il y avait des risques de guérilla, qu'il y avait des soldats, que c'était des zones vraiment, vraiment interdites, déjà pour les touristes. Et puis même eux... Il déconnait
pas
avec ça.
C'était pas sécure du tout.
Voilà, du coup, on s'est dit, bon, bah, vous voyez. Donc, il a essayé de nous faire dormir dans une église, ça n'a pas fonctionné. Il ne voulait pas nous prendre parce qu'ils avaient peur de se faire dénoncer, parce que c'était interdit d'héberger des touristes.
Parce que tu ne faisais pas ta prière, Laura, c'est juste pour ça, tu sais.
Voilà, l'église on peut pas, donc avec Octave, on se dit bon bah on va quand même dormir quelque part, donc on allait se planquer dans la forêt. On y va très tard dans la nuit pour pas qu'on nous voie, et puis on met le réveil très très tôt avant que le soleil se lève pour pas que quelqu'un nous voie. Donc on fait du stop au bord de la route là vers la forêt, le soleil se lève à peine. Là, c'est dans la montagne, mais c'est en fait une montagne très poussiéreuse. Tout est recouvert de poussière, tout est jaune. Ça crée une ambiance vraiment apocalyptique, on va dire.
Ah ouais, apocalyptique, carrément.
Le ciel est tout poussiéreux, tout jaune. Les maisons, elles sont recouvertes de poussière. Les maisons, c'est vraiment des petites cahutes. Il n'y a même pas l'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Enfin, c'est très, très reculé, quoi. Les routes, c'est des chemins en terre avec des énormes ornières. enfin c'est on est dans un autre temps, quoi. On se croirait 200 ans.
Colorado, genre.
Ouais.
Et poussière, genre poussière, vous aviez un truc pour respirer, vous aviez des masques, des écharpes, quelque chose,
notre
ça
écharpe,
va.
Ouais, un petit peu, quand il y avait des voitures qui passaient ou quoi. Et notamment, donc là, un petit camion qui transportait qui avait une benne à l'arrière ouverte, quoi,
ouais.
Qui passe et qui nous prend en stop.
Okay,
génial.
Cool.
Alors, ça a été vraiment le stop le plus fou. Donc, en fait, on était sur des barils d'essence. Non, au début, on ne savait pas. On a même pris une cigarette et ils sont arrêtés et nous ont dit « Non !» Et là, ils nous ont montré les barils. Donc, bon, ok, on va faire pendant le stop. Pas de souci. Donc, on était posés sur les barils d'essence et sur des gros sacs de riz et de noix de bétel. C'est des noix qui mâchent en Birmanie et qui leur donnent les dents toutes rouges. Ça leur fait des sourires sanglants, c'est très particulier.
Horrible.
Ouais. Et donc voilà, en fait, on roule à l'arrière de ce camion. Faut savoir que le camion roule à 10 à l'heure, je pense. On a fait 100 km en 12 heures. parce qu'il roulait très très lentement et également parce qu'on a fait plein de stops dans les villages. Et à chaque fois, bah, ils livraient du riz, ils livraient de l'essence, donc on les aidait à décharger. Et à chaque fois, mais c'était une aventure, quoi, parce que les gens, ils n'avaient jamais vu, je pense, de personnes étrangères.
Occidentales même, je dirais.
Et occidentales, ouais, complètement. Et donc, des échanges de regards avec des enfants qui nous faisaient coucou, avec des petits vieux qui étaient hyper étonnés de nous voir.
Si sur des barils d'essence, ouais, normal.
Ouais, c'est sûr.
Prêt à tout péter. Moi, ça m'aurait fait flipper, ça.
Ouais, c'était vraiment une immersion dans la culture birmane traditionnelle, quoi, dans les villages les plus reculés, qui étaient complètement dingues. Et voilà, donc ça, ce stop, cette journée, je pense, c'est vraiment parmi les plus belles journées de ces 2 ans de voyage et même de notre vie, je pense qu'on peut le dire. Hein, c'était très riche. Et ça permet de relativiser, quoi. Là, pour le coup, on relativise vraiment sur
12 heures, 100 km. Ouais, vaut mieux relativiser, vaut mieux souffler et se dire « Ok, c'est cool. C'était juste génial et tant pis pour le temps qui est passé. » Parce que, du coup, vous avez dormi dans le camion, en fait.
Non, on est arrivé le soir dans un...
Ah ouais.
Là, ils nous ont déposé un endroit... Dans la nuit, on s'est planqué, je sais plus, dans un verger, je crois. Bon, voilà. Sympa.
Je vois. Bah, tu vois, j'étais pas du tout au courant de cette phase-là de ton voyage. Et j'avoue que vous avez été super courageux. Parce que, honnêtement, entre les histoires de traverser en tempête et faire 12 heures de camion assis sur un baril, franchement, je suis pas sûre que moi je l'aurais fait ça. Mais je pense que, par contre, niveau expérience, t'as dû prendre du gain plus, quoi.
Et moi, je pensais pas du tout être capable de faire ce genre de choses, quoi. Enfin, j'y pensais même pas. Et le fait de lâcher prise, justement, comme on me disait tout à l'heure, et d'accepter chaque aventure qui se présente, je me suis vraiment dépassée, quoi. Et ça m'a donné une force intérieure et physique aussi, avec toutes les marches et les boulots qu'on a fait, qui ont vraiment changé ma vie et ma manière de l'aborder, quoi.
Effectivement. Vous avez bah déjà le fait de vouloir réduire son empreinte carbone, de passer à un état de nutrition, parce que vous êtes devenu aussi végétarien au cours du voyage.
Donc,
effectivement, ça aussi, ça a dû vraiment bouleverser votre équilibre, parce que ce n'est pas facile de devenir végétarien et que faire ça en voyage en plus, j'imagine que ce n'est vraiment pas le plus simple à faire.
Eh ben ouais, ça s'est fait petit à petit. D'abord le bœuf, parce que c'est la viande qui a le plus d'impact carbone, et puis ensuite les autres viandes, et puis ensuite le poisson. Sauf le poisson qu'on pêchait nous-mêmes, bien sûr, en mer. Là, on s'est bien fait plaisir.
Trop cool.
mais ouais, ça a été progressif et le voyage, c'est l'occasion, je trouve, de justement faire ce genre de changement. Sur son mode de vie, parce qu'on a le temps, en fait. C'est vraiment un moment qu'on s'octroie où on a le temps, et ça, c'est un luxe. dans nos vies de tous les jours, on n'y pense pas. Enfin, c'est plus compliqué, quoi, de sortir la tête du guidon et de prendre du recul. Alors que le voyage, c'est exactement le moment propice pour ça, quoi.
Oui, pour se poser d'autres questions et évoluer d'une manière totalement différente si tu as le courage de le faire et que tu as le temps, effectivement. Parce que c'est clair que le premier voyage qu'on a fait ensemble, on n'aurait jamais pu faire ce genre de choses parce qu'on n'avait pas le temps qui était de notre côté. Et c'est vrai que quand tu as le temps... Et surtout, les rencontres, j'imagine que les rencontres, ça a fait quelque chose aussi.
Ah oui, 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 les rencontres, c'est clair que c'est... ça a été toujours un apprentissage. Et alors, des rencontres, on en a fait un sacré nombre, un sacré paquet avec tous les stops qu'on a fait. Je sais plus, mais plusieurs centaines de voitures, largement.
Ah ouais, quand même.
Camions, enfin, plein de charrettes à bœufs, tout ça.
Toujours plus. Mais oui, à dos de chèvre.
Alors ça, on n'a pas fait. Mais les rencontres ont toujours été riches d'apprentissage sur la bienveillance des gens, la générosité. C'est quelque chose qui revient souvent, quoi. C'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus, et on l'a vraiment expérimenté, quoi. Des personnes qu'on croisait comme ça qui étaient pauvres, mais d'un point inimaginable en Inde ou quoi, et qui nous donnaient à manger alors qu'eux-mêmes n'avaient pas grand-chose, quoi. Et, on était gênés, on refusait, mais ils insistaient. Bon, en fait, juste accepte, quoi. C'est beau, et puis ça aide aussi à moins avoir peur de l'autre. Dans la culture occidentale, on a peur, quoi. C'est effrayant, quoi. T'as quelqu'un qui vient sonner chez toi, ta première réaction, c'est de pas répondre.
C'est qui?
Ouais, ou c'est qui? Mais qu'est-ce qu'il veut? Là-bas, c'est aussi lié peut-être au climat, j'imagine. Il fait chaud, t'as pas de porte, en fait, en Indonésie, par exemple. Et tout est ouvert, et tout est beaucoup plus chaleureux. Donc, c'est des modes de vie qui sont très inspirants et qu'il faut après essayer de garder une fois de retour en France, pas retomber dans son train-train et pas oublier tous ces apprentissages-là, quoi.
Ouais, parce qu'en plus, non seulement vous avez fait un voyage où il n'y avait pas forcément d'itinéraire, mais c'est surtout que vous êtes rentré non pas par choix, mais par Covid.
Ah oui, oui, et oui, ce petit Covid. Alors, quand le Covid est arrivé, on était en Inde. Ouais. Donc, à la moitié, non, on avait fait une grosse moitié quand même, on va dire les deux tiers de notre retour sans avion. Et du coup, en Inde, alors c'était assez intéressant, ce qui s'est passé, c'est que le Covid, au début, était... dans l'esprit des Indiens et de beaucoup de personnes en Asie, ça venait des Occidentaux, mmh. Des gens qui voyageaient. Donc, nous, les gens pensaient qu'on leur amenait,
la peste.
On leur avait amené le Covid. Donc, en fait, les gens changeaient de trottoir dans la rue. Les enfants, quand ils nous voyaient, ils disaient « Corona, Corona !» On avait l'impression d'être pestiférés et c'était assez intéressant à vivre. Je pense que...
Ils avaient vécu le racisme, du coup.
Certaines personnes d'origine asiatique en France, on a entendu qu'ils avaient vécu ce genre de discrimination à Paris, par exemple, dans les métros, mm-hmm. Les gens changeaient de place ou quoi.
Complètement.
Donc, de le vivre soi-même, c'était intéressant. Et du coup, donc on était en Inde, et puis quand l'Inde a été confinée, on était dans une auberge de jeunesse, là, pour le coup, qui... on a eu de la chance, ils ont bien voulu qu'on reste, donc on était un petit groupe de voyageurs, et voilà, pas savoir trop quoi faire, quoi, parce qu'au début, c'était quand même quelque chose d'assez inquiétant.
Oui.
On avait nos familles qui nous mettaient la pression pour qu'on rentre.
Et les potes aussi, hein, moi je t'ai appelé. Hein.
Oui, c'est vrai, je me souviens. Mais voilà, non, nous on était déterminés, on rentre sans avion. Donc on a essayé de voir tous les chemins alternatifs possibles, parce que toutes les frontières se fermaient. Hein, au bout d'un moment, quand tout a été bloqué, on s'est dit, là, on a deux choix. Soit on reste en Inde en attendant que ça se tasse, ça peut être un mois, ça peut être deux ans. Soit on se fait rapatrier, parce que là, on avait notre idée de projet, le projet qu'on voulait mettre en place à notre tour. Et voilà, soit on le lançait rapidement, mais en prenant l'avion, soit on restait en Inde. Et en fait, ce qui a fini de nous décider à nous faire rapatrier, c'est qu'il y avait énormément de violences policières en Inde. Hein. On se plaint en France, oui, le confinement, tout ça. Non, mais en Inde, ça n'a rien à voir. C'était,
c'est vrai.
C'était beaucoup plus violent. Des queues immenses pour aller prendre de la nourriture qui était rationnée dans les magasins sous 40 degrés, où bah, tu fais la queue et finalement, bah, il n'y a plus rien. Donc en fait, tu rentres chez toi, bredouille. Ou des personnes qui respectaient pas le confinement, qui se faisaient matraquer ou qui devaient rentrer à genoux en mode humiliation publique. Enfin, voilà, c'était... On commençait à entendre ce genre de choses et on s'est dit, bon, je pense qu'il faut qu'on rentre.
Ah ouais.
Tant pis.
Vous avez dû avoir peur quand même, non, d'entendre tout ça.
On
n'a
pas
de...
peur, mais c'est surtout qu'on était vraiment triste, en fait, bah, de voir, la, encore une fois, la, l'Inde... dans sa, toute sa misère et toute sa complexité, qui n'arrivait pas trop bien à gérer ce, ce problème. Et, alors que c'est un pays incroyable avec une culture vraiment, vraiment folle, quoi. Et puis, bah, triste aussi pour nous de devoir prendre l'avion alors que ça faisait 2 ans qu'on voilà,
ouais, que vous vous battiez contre.
À plus jamais le prendre de notre vie. Mais bon, voilà, on l'a fait. Et puis, puis voilà, retour à la maison, en plein confinement, c'était génial.
Ah, ça doit mettre une sale claque de voyager comme ça, pas sans but, mais sans contrainte, et de devoir rentrer bah, par obligation, on va dire mondiale, en fait, hein, parce que oui. Ça a touché tout le monde, hein, personne n'a été épargné. Et devoir rentrer en France avec, bah, avec toutes ces expériences de vie, et retourner, pas en métro boulot dodo, mais retourner à une base de vie complètement... française, ça devait être un peu terrifiant, ça.
Oui, alors c'est clair. Heureusement que on est rentré du voyage avec un projet, parce que sinon, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment déprimant. Là, on s'est dit bon, soit on se lamente, soit on continue de garder cette dynamique et cette énergie qu'on a développé pendant le voyage, et on enchaîne, on se lance à fond dans notre projet, on trouve le terrain, on achète et on met en place le projet, quoi. On y va.
Alors attends, on va un peu synthétiser tout ça, parce que c'est vrai que les auditeurs là ils savent pas. Donc vous, en fait, vous êtes rentré en France dans le but de créer un nouveau lieu.
Tout à fait. Donc ouais.
Comment il s'appelle ?
L'idée, c'est de créer en fait un écolieu où on expérimente, nous et avec d'autres personnes, on expérimente des moyens pour une vie plus résiliente,
okay.
plus écologique. Donc, ça, les sujets abordés, ça va être l'autonomie énergétique, donc panneaux solaires, système pour chauffer l'eau avec un poêle à bois ou ce genre de choses, l'autonomie alimentaire. Donc nous, on se base sur la permaculture et puis voilà. Bon, l'autonomie alimentaire, c'est un vaste sujet qui prend beaucoup de temps, mais qui est,
mais du coup, la permaculture, c'est quelque chose que ça vient de votre voyage.
Voilà.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà. C'est toutes vos expériences dues à ce voyage qui vous ont amené, en fait, à créer, je vais le dire parce que t'as pas dit le nom, c'est les herbes folles.
Ah, ben, j'y venais. C'est bien, tu fais notre pub. Donc, oui, le lieu s'appelle les herbes folles et ben, c'est au cours du voyage, en fait, qu'on a pris conscience de l'urgence climatique et de l'importance à agir en fait maintenant. C'est pas dans 10 ans pour nous là. Il faut réagir maintenant, quoi. Il y a trop de dégâts déjà enclenchés sur la nature, la biodiversité et plus beaucoup de ressources pour continuer à vivre tel qu'on le vit. Donc il faut qu'on change notre mode de vie et qu'on aille vers un mode de vie plus sobre et moins lié à la société de consommation. Et ça, c'est vraiment au cours du voyage qu'on a approfondi un peu ces sujets, parce qu'on avait le temps, parce que on a pris du recul sur nos vies conventionnelles, on va dire, en France.
Sur vos vies respectives.
Et le projet s'est construit au fil de nos rencontres, de nos woofings, des personnes aussi dans les pays plus défavorisés, qui vivaient de peu. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Et finalement, donc il y a l'aspect sensibilisation qu'on veut mettre en place ici, et aussi l'aspect apprentissage, où nous-mêmes, on continue d'apprendre et d'expérimenter chaque jour des nouvelles techniques. Et finalement, on retrouve un petit peu les mêmes sensations qu'en voyage, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'apprentissage, dans l'incertitude, l'aventure, dans la rencontre aussi, parce qu'on a beaucoup de personnes de passage, alors soit des voyageurs, soit des personnes qui viennent faire du woofing. Là, maintenant, on est de l'autre côté. Nous qui délivrons des woofing. Okay. Ou qui viennent faire des ateliers ou des formations. Alors ça, c'est pour le moment, on ne les a pas encore mis en place, mais dans très peu de temps, là, voilà, on est en train de lancer le projet. Donc voilà, on retrouve un peu toutes ces émotions du voyage, mais pour construire quelque chose, pour une cause qui nous parle. Donc voilà, donc ça s'appelle Les Herbes Folles. Merci Sarah de l'avoir précisé. Et c'est dans le centre de la France, entre Clermont-Ferrand et Lyon, on va dire, un peu perdu dans la campagne.
Et vous avez du coup, si demain... quelqu'un décide de venir vous voir, qu'est-ce que vous allez proposer à cette personne, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait chez vous ?
Partager ce que nous, on a appris et ce qui l'intéresse, quoi, sur tous ces sujets évoqués. Mm-hmm. Et ensuite, si la personne vient pour faire un woofing, on a toujours 1 million de chantiers en cours, que ce soit la construction, l'éco-construction, ou la permaculture, ou la menuiserie, apprendre à faire ces savons, quoi, sur l'autonomie, apprendre à transformer ses aliments, etc. Et puis aussi un peu plus de connexion avec la nature. Là où on est entouré de nature, et c'est vrai que ça fait du bien pour si c'est quelqu'un qui vient de la ville, nous, je sais que...
Je confirme.
Avant, on était...
24 heures suffisent.
Ouais. Et maintenant, au bout de 2 heures, en ville, on n'en peut plus, quoi. C'est d'être vraiment entouré de nature et plus proche un peu de ce qui se passe, quoi, de la météo, des saisons, de la faune et de la flore sur place. Ça fait du bien, et enfin, prendre du recul, quoi, justement, pas être dans un schéma métro boulot dodo. Ça permet de toujours souffler un peu, quoi, et ça fait du bien.
Est-ce qu'on peut dire que les herbes folles, c'est un nouveau moyen pour vous de voyager sans quitter le territoire ?
En voyage, il y a une dimension très, très grisante d'émotions fortes, d'imprévus. C'est très intense, les émotions, autant dans le positif que dans le négatif, parce qu'on est loin de chez soi. C'est hyper intense. Là, ça l'est quand même un petit peu moins, mais on retrouve quand même l'essence de ces émotions, quoi. Et on est hyper épanouis ici, parce qu'on a cette idée d'aventure, d'apprentissage. Et c'est clair que c'est un peu un voyage, mais sans partir loin, quoi. Je suis très reconnaissante d'avoir réussi à trouver un projet de vie qui combine un petit peu l'envie d'avoir un impact positif sur la planète.
Je suis assez d'accord avec toi, Laura. C'est vrai qu'on peut voyager même en France et il suffit juste, mais même en sortant de chez soi le matin, il suffit d'aller parler à un inconnu, et c'est déjà une sorte de voyage, je pense, de dépasser ces limites un peu occidentales qu'on a au quotidien. Et quand on revient de voyage, en règle générale, on a tendance à avoir cette mentalité au début de rester dans cet état de découverte, et d'avoir envie, en fait, de connecter avec tout le monde et de transmettre, de partager et de continuer à voyager, en fait, tout simplement. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. C'est vraiment un état d'esprit. Et clairement, vous êtes révolutionnés mutuellement avec Octave en revenant de ce voyage, et vous avez carrément tiré un grand profit, parce que c'est pas vraiment le mot, mais moi je vois ça plutôt comme un après. C'est-à-dire que vous avez vraiment pour moi, vous avez vraiment exploré vos zones d'inconfort les plus profondes et vous êtes revenu avec un projet qui a vraiment mis en avant tout ce que vous avez vécu là-bas et qui vous permet de continuer à être heureux sans pour autant voyager tous les jours.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Merci beaucoup, Laura, d'avoir partagé tous ces moments-là avec nous, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui osent en fait de passer ce cap, de partir seul ou accompagné, parce que bon, là, c'est vrai qu'on a parlé du voyage en ton nom. Peut-être que la prochaine fois, on pourra inviter Octave pour avoir vraiment le côté qu'est-ce que ça fait de partir en couple, de vivre H24 ensemble, que ça soit dans une tente, dans un van ou sur un camion avec... avec de l'essence sous les fesses. Je pense que la vision des deux est encore différente, mais voilà, moi, ce qui était important, c'était vraiment de pouvoir avoir ton avis en tant que femme sur cette évolution et ce voyage que vous avez fait. Et puis surtout, Laura, vraiment merci, parce que j'ai passé un super bon moment avec toi. Tu t'es vraiment livrée. Ça fait plaisir. J'ai voyagé et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir... parler d'autres voyages, parce que c'est 2 ans, c'est très long et ça fait presque 1 heure qu'on en parle, mais on pourrait en parler pendant des heures. Et moi, pour clore le podcast, j'ai envie de te poser 3-4 questions juste pour qu'on rigole un peu et donner un peu une idée de qui tu es à nos auditeurs.
Allez.
Tu réponds du tac au tac.
Je t'écoute.
T'es prête? Ouais. Allez, c'est cool. Jour ou nuit?
Jour.
À pied ou en bateau?
À pied.
Plage ou montagne?
Montagne.
Évidemment. Seul ou à deux?
À deux.
Évidemment. soirée lecture ou soirée entre potes?
Entre potes.
Patience ou révolution?
Révolution.
Thé ou café?
Café.
Et la dernière, à l'arrache ou organisée?
Ah bah alors là, tu vois, ça c'est une très bonne question, parce que c'est les deux. Choisir. Les deux sont nécessaires.
Donc ça veut dire qu'on peut voyager en faisant les deux?
Ouais. Bah oui, voyager et vivre en faisant les deux.
Bah, merci pour le temps que tu m'as accordé, Laura.
Merci à toi.
J'espère à très très vite. Et puis on fera suivre bien évidemment les liens dessous des Herbes Folles, pour que les gens puissent voir où tu es, voir ce que tu fais. Quelques photos, bien évidemment, n'hésite pas à nous en envoyer pour qu'on puisse les faire suivre sur les liens du podcast. Je te souhaite une très très belle journée.
Merci beaucoup. Et puis très bonne journée aussi.
Bonne journée à toi, Laura. Salut.
Salut.